Le Club de Tamani.
Le Club de Tamani.
Votre émission de tous les vendredis soirs sur Studio Tamani.
La culture.
Le sport.
La musique.
Les infos.
L'émission qui vous informe, cultive et divertit.
Merci de nous être fidèles auditeurs de Studio Tamani. Bonsoir. Nous vous ouvrons les portes du temple du Club de Tamani comme tous les vendredis et ce soir nous allons parler littérature. Et pour ce faire, nous allons accueillir une femme d'exception. Elle s'est définie comme une humaniste battante. Elle, c'est le médecin général de brigade Kani Diabaté Koulibaly, la première femme d'ailleurs à avoir accédé au grade de général au sein de l'armée malienne. Aujourd'hui à la retraite, le général a occupé plusieurs hautes fonctions dont la présidence de la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et plusieurs postes à l'international. Et l'ouvrage que nous allons découvrir ensemble ce soir est son autobiographie, un livre qui pour elle constitue sa modeste contribution à l'éducation de la jeune génération. La revue de la presse, l'éducation aux médias, les infosports et la bonne musique meubleront cette émission présentée ce soir par Aïssata Diarra et moi, Lalla Diarra Touré. Nohum Djiré conduit les opérations techniques. Merci de nous suivre. Aïcha, bonsoir.
Bonsoir, Lalla Diarra Touré. Comment tu vas?
Il paraît que je vais bien.
Ah bon?
Je suis tombée amoureuse de ton tissu.
Merci beaucoup.
Il est très joli. Te va bien?
Il faut faire la promotion de la culture malienne.
N'est-ce pas?
Oui.
Alors, Aïcha, il y a une grande cantatrice qui, malgré le poids des années, le timbre vocal n'a pas pris une seule ride.
Eh oui, Lala Salamba Kouyaté, car c'est d'elle qu'il s'agit. Elle a sorti il y a juste quelques jours un titre qui cartonne d'ailleurs.
Et le titre dont il est question ici à Aïssata Diarra est Djarabi. On écoute ensemble.
De retour dans ce studio, nous venons là à l'instant d'écouter ce single de Salamba Kouyaté dans lequel elle chante l'amour.
Ah, l'amour, c'est beau, c'est merveilleux, à condition de trouver son âme et sa sœur, âme sœur.
Oui. Allons de ce pas dans les kiosques à journaux là.
La revue de la presse.
Et ce soir, c'est avec grand plaisir que nous retrouvons Adama Amadou Haïdara pour la revue de la presse. Adama, bonsoir.
Bonsoir Lala, bonsoir Aïcha et bonsoir à tous.
Alors Adama, les condamnations de Chana Takiyou et de Adama Diarra d'Ibn Le Cerveau ont été à la une de plusieurs parutions cette semaine.
Eh oui, Aïcha, le leader de l'ex-mouvement Yerowolo et le journaliste Chana Takiyou ont été fixés sur leur sort lundi dernier 3 août. C'était devant la chambre criminel de la cour d'appel pour le premier et devant le tribunal du pôle national de lutte contre la cybercriminalité pour le deuxième. Le Républicain a titré dans son numéro du 4 août, Adama Diarra d'Ibn Le Cerveau condamné à 5 ans de prison dont un an avec sursis, Chana Takiyou condamné à 6 mois de prison ferme. Le journal explique que dans le dossier Ben Le Cerveau, les juges n'ont pas suivi le ministère public qui avait requis 10 ans d'emprisonnement contre l'ancien membre du Conseil national de transition et leader du mouvement Yerowolo debout sur les remparts. L'Indépendant indique que ce procès de Adama Diarra d'Ibn Le Cerveau était particulièrement suivi. Selon ce quotidien privé, Ben Le Cerveau avait reconnu lors de l'audience du 27 juillet être l'une des voix entendues dans un enregistrement audio que les magistrats avaient fait écouter dans la salle. Quant au journaliste Chana Takiyou, le délibéré a pris moins de 10 minutes. Le directeur de publication du 22 septembre a écopé de 12 mois de prison, dont 6 mois avec sursis pour atteinte au crédit de l'État à travers l'institution judiciaire. Affaire Ben Le Cerveau, 4 ans cash, Chana, 6 mois ferme, écrit l'essor. Tout en rappelant l'origine de cette dernière affaire, le quotidien national indique qu'elle a relancé les débats sur l'articulation entre la liberté de la presse, la responsabilité éditoriale et l'application des lois relatives au contenu diffusé sur les plateformes numériques. Quant à l'affaire Ben Le Cerveau, la condamnation prononcée le 3 août clôt une étape judiciaire, mais ne met pas fin aux interrogations politiques soulevées par cette affaire. Human Rights Watch appelle les autorités à abandonner les charges contre Shana Takiou. Pour l'Organisation de défense des droits de l'homme, personne ne devrait être condamné à une peine de prison pour avoir exprimé pacifiquement une opinion, peut-on lire dans les colonnes du quotidien Le Diamana, Les Échos.
Merci beaucoup Adama Amadou Aïdara pour toutes ces informations.
Et Aïcha, après les infos, allons dans les coulisses de l'info.
Les coulisses de l'info.
Avec l'essor des réseaux sociaux de plus en plus, des créateurs de contenu se présentent à la fois comme activistes et journalistes, Lala Diaratouri.
Absolument, Aïcha. Et est-ce qu'on peut concilier ces deux rôles tout en restant crédible? Où se situe la frontière entre engagement, buzz et information?
Élément de réponse avec Mamoudou Bokoum, président de l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL. Écoutons-le.
Je dirais oui et non. Non, parce que le journaliste, dans son travail, est encadré par des normes, c'est-à-dire dans sa production de l'information, il est tenu par une certaine rigueur en respectant les codes de déontologie et d'éthique. Tandis que le créateur de contenu ou le vidéoman, c'est selon lui, il s'adjuge une grande liberté dans sa production de contenu, dans lequel contenu d'ailleurs on voit plus d'opinions que de faits vérifiés. Et par ailleurs, si l'influenceur ou ce vidéoman respecte les principes qui guident le métier du journalisme, notamment en prenant comme boussole l'éthique et la déontologie, il peut bien sûr porter la casquette du journaliste. La ligne rouge à ne pas franchir, à mon sens, pour le journaliste, c'est son indépendance et sa responsabilité. Il doit préserver la sacralité des faits tout en distinguant clairement ses faits des opinions propres à lui-même. Et ses opinions doivent être étayées par des faits vérifiés, même s'ils doivent les avancer. Dans la plupart des cas, les directs qu'ils font ne respectent pas les règles d'éthique, en ce sens que généralement, ils le font seuls et n'ont pas la possibilité de vérifier les informations avant de les diffuser. Très souvent, on voit qu'ils propagent plus de rumeurs et on finira par se rendre compte que ce sont des informations erronées. En plus, ils ne distinguent pas les opinions des faits dans leurs directs. Donc, ils foulent toutes les règles d'éthique à l'air, même si certains parmi eux quand même fournissent des efforts pour citer leurs sources.
Maintenant, place à l'invité culture.
L'invité culture.
Première femme générale de l'armée malienne au parcours inspirant, nous recevons ce soir avec tous les honneurs médecin général de brigade Kani Diabaté, épouse Koulibaly, auteur de l'autobiographie Une humaniste battante. Mon général, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Le plaisir est pour moi.
Alors, mon général, pourquoi ce livre?
D'abord, bonsoir et merci de me recevoir dans votre studio. Pourquoi ce livre? J'aime bien la question. J'ai ressenti la nécessité de porter un regard rétrospectif sur mon parcours de l'enfance à la fin de ma carrière. J'ai beaucoup appris. Il m'a paru important de partager ce que j'ai appris grâce à d'autres maîtres généreux. J'ai acquis la conviction qu'il est essentiel de transmettre à la jeune génération les valeurs qui m'ont permis d'être ce que je suis devenu et d'œuvrer utilement pour les intérêts de ma patrie. Dans un pays aussi riche culturellement et historiquement que le Mali, la vie militaire se nourrit également de nos réalités sociale, culturelle et historique. Le leadership que l'on m'attribue ne m'a pas été transmis uniquement par les manières. Il s'est forgé dans l'épreuve et la responsabilité quotidienne.
Alors, mon général, dès les premières lignes de ces livres, vous parlez de votre grand-mère. Votre relation était-elle particulière?
Je vous remercie pour avoir mis l'accent sur une personne anonyme. Ma grand-mère vivait avec nous. Ma mère était sa fille aînée, d'ailleurs sa seule fille, parce qu'elle a eu une fille et deux garçons. J'ai appris que son mari est mort quand elle n'avait pas 36 ans. Elle s'est consacrée à ses enfants, n'a voulu d'aide de personne. Elle pagayait la pirogue quand il le fallait. Elle a élevé ses enfants et ne s'est jamais remariée. Elle avait elle-même son champ de maïs, de riz, d'arachide, aller chercher le bois qu'elle coupait elle-même. d'après les informations que j'ai reçues et ce qu'elle me racontait, parce que je dormais avec elle. Elle me racontait les habitudes des femmes à Saboussiré, parce que ma mère est du Logo Saboussiré.
Alors, mon général, vous parlez aussi de vos parents biologiques avec beaucoup d'émotion. On sent une fierté dans vos propos, le sens élevé des sociabilités de votre père, alors, et l'héroïsme également discret de votre mère. Comment est-ce que tout ceci vous a influencé?
Mon père était contremaître principal des travaux publics. Il a sillonné plusieurs zones du pays. Ma mère était femme au ménage. J'aime pas l'expression quand une femme me dit « je fais rien, je suis à la maison ». Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de respect pour ma mère. C'est elle qui faisait la cuisine. On savait ce qu'on mangeait, c'était sain. Nous maintenant, c'est pas tout le monde. On a des aides ménagères qui font n'importe quoi. Mais je répète, c'est pas tout le monde parce que j'en ai eu qui sont très bien et qui sont là comme une maman. Donc j'ai beaucoup de respect pour ma mère. Elle n'est pas allée à l'école, mais c'est la femme qui était là le soir. Est-ce que Ayaka le sonta? Elle nous faisait confiance et on lui disait oui. Elle se levait tôt avant tout le monde et se couchait après tout le monde. Donc mon père, il y a un événement spécial. Vous savez, d'après ce qu'on m'a raconté, il a fait un puits à grand diamètre.
Vous en parlez d'ailleurs dans le livre.
Dans le livre. Pour les militaires et la population civile. Je pense que c'était dans les années 1948. Je n'étais pas née. Alors, pour Ibedondo Kolonsi, Dondo Minorokama. Alors, il ne pouvait pas s'imaginer que sa fille allait être militaire. D'abord, une des premières filles à rentrer dans les forces armées et la première à être générale de brigade. Alors, ce sont des choses qu'on n'oublie pas. Je peux vous dire, je suis très, très fière de mes parents et surtout de l'éducation que j'ai reçue. Dieu a fait que j'ai profité de cette éducation de base, surveillée, et c'était très important. C'est pourquoi quand je dis « le moi ne veut rien dire », le moi, c'est un individu. L'individu dépend de l'environnement.
Vous parlez d'éducation, ça tombe bien. Nous allons parler à présent de votre parcours scolaire, de vos premiers pas à l'école fondamentale de Nyumerambougou, au lycée des jeunes filles, jusqu'à l'école nationale de médecine et de pharmacie du Point G. Pouvez-vous nous raconter brièvement quelle était votre relation avec l'école? Élève brillante, disciplinée, est-ce que faire de si longues études était une conviction dès le départ?
Bon, il y a un proverbe, le miel ne se dit pas doux.
Doux, absolument.
Je peux vous dire que j'étais disciplinée parce que je suis d'une famille d'enseignantes. J'ai appris ça. Bon, brillante, je ne peux pas dire, je vais dire que j'étais moyenne. Mais quand j'étais à l'école de médecine, j'ai eu mon diplôme avec mention très honorable.
Wow.
Merci beaucoup, mon général Kani Diabaté, pour ces premières réponses. Mais là, nous allons marquer maintenant une petite pause musicale.
Et oui, Aïcha, et nous allons écouter cette fois-ci l'ensemble instrumental du Mali qui chante ici Kore Douga Massakoro. Massakoro chanté ici par l'ensemble instrumental du Mali et nous allons continuer avec notre échange avec l'invité général Kani Diabaté. Aïcha?
Mon général, vous avez occupé plusieurs postes de responsabilité durant votre carrière, mais vous avez aussi parlé de l'hostilité de certains collègues face à une femme dans le milieu où vous évoluiez. Comment cela se traduisait?
C'est vrai que j'ai occupé beaucoup de postes. J'ai été deux fois chargée de mission. J'ai été délégué ministériel, je vous ai dit, j'ai été haut fonctionnaire de défense. Mais les deux fois chargé de mission, c'était mon bureau était au cabinet du ministre et pour le poste de délégué. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Juste quelque chose, on me dit souvent, Kani, ici c'est l'armée, c'est pas l'armoire.
Yeah. Ça veut dire quoi?
Bon, ça veut dire... parce que j'avais en charge les dossiers du ministère de la promotion de la femme. Vous savez, quand on est dans le cabinet, chaque conseiller a des dossiers qui lui sont envoyés pour traiter, pour faire une note technique. Alors, chaque fois, j'avais des dossiers du ministère de la promotion de la femme, les dossiers concernant le personnel féminin. C'était dans mes attributions. C'est pour ça que j'ai dit au début, on va aller rapidement. Donc, je crois qu'ils ne comprenaient pas très bien qu'est-ce que je pouvais amener. Parce que, vous savez, le début de chaque chose est compliqué. Il fallait bien préparer le document qu'il n'y ait pas une seule faute, un seul mot de travers. Alors, chaque fois, il fallait que j'explique. Une fois, j'ai dit, vous savez, les résolutions des Nations Unies n'ont pas spécifié femmes de militaires, femmes des forces armées de sécurité, femmes civiles. Donc, ce que je dis, c'est par rapport aux femmes. Et vos épouses ne sont pas des militaires. C'est des choses comme ça. Mais ce qui m'a beaucoup aidée, ce sont mes collègues, ma promotion. Parce que j'ai intégré la 6e promotion de l'EMIA, la promotion 114. Bon, donc, qui était là, il y en a qui étaient chef d'état-major, il y en a qui étaient cabinet. Bon, et puis, il y a quelque chose qui m'a aussi aidée. Vous savez, il y a ce genre de cousinage dans l'armée. Ceux qui sont juste avant toi, ce sont tes affreux. Ceux qui sont juste après toi, ce sont tes bazars. Ceux qui sont plus loin, ce sont tes grands-pères. Alors, très souvent, mes promotionnaires m'ont aidé. Et souvent, les affreux, même s'ils ne comprenaient pas, ils faisaient sous forme de blague. Mais je savais qu'ils le pensaient.
Donc, est-ce à dire que le rôle que vous jouiez en son temps était tellement sous-estimé qu'on vous traitait de la sorte? Ici, ce n'est pas l'armoire, c'est l'armée.
Pour moi, en fait, ce n'était pas compris. Donc, chaque fois, il fallait que j'explique justement que je ne suis pas là pour... par complaisance. C'est très important. Vous savez, parce que j'avais, excusez-moi de le dire, j'avais un certain bagage. Et je parlais avec des documents des Nations Unies. Je disais chaque fois, vos familles, moi je m'occupe des familles, des militaires, du personnel féminin. Vos enfants ne sont pas des militaires, ils n'ont pas choisi d'être vos enfants. Donc des choses comme ça, des anecdotes comme ça, pour ne pas vous perdre le temps, finalement ça a aidé.
Alors mon général, expliquez-nous ce passage s'il vous plaît. À la page 39, vous dites, je cite, « Mon uniforme a été une clé, un outil, parfois un bouclier. Il a été surtout pour moi un symbole de service, de résilience et de foi en l'avenir. » Fin de citation.
Bon, ça c'est très important pour moi. Vous savez, une clé, parce que ça a ouvert beaucoup de portes pour moi. Et j'ai eu beaucoup d'opportunités et beaucoup d'autres femmes sont venues. Parce qu'au départ, en 1974, on n'était que deux femmes. Bon, maintenant, vous voyez, il y a des centaines. Donc, pour moi, c'est comme une clé qui a ouvert beaucoup d'opportunités pour moi. Mon uniforme a été un outil. Il m'a permis d'occuper d'autres postes, en plus de la médecine, de jouer dans des domaines, le volet humanitaire qui m'a toujours attiré, ainsi que ma grande sœur qui est gynéco-obstétricienne, c'est-à-dire aider celles ou ceux qui en ont besoin. Un bouclier, mon éducation de base et la formation m'ont permis de garder mon sang-froid et faire face devant toute situation. J'ai su prendre de la hauteur, me mettre au-dessus de toutes les critiques. Il y en a qui... J'ai eu beaucoup de critiques, vous pouvez imaginer. C'est terrible. Devant des centaines de paroles injustices ou attitudes, ou des fois mépris. Mais il fallait que j'affronte ces épreuves en me disant, c'est Dieu qui a voulu que je sois là. Il y a beaucoup d'autres qui doivent être là. Il faut que je tienne le coup. Pour moi, c'était un défi. Bon, mon uniforme a été un symbole de service, de résilience et de foi en l'avenir. Mon éducation de base, avec ma formation militaire, m'ont apporté une confiance sans arrogance pour faire face aux difficultés de la vie. J'ai acquis une certaine résistance, une résilience positive à ne pas capituler. Un symbole aussi, car je l'avais toujours selon les saisons et les instructions.
Vous avez consacré un chapitre entier à vos luttes pour les droits des femmes, également pour les droits des enfants. Quelles ont été les grandes réalisations à ces deux niveaux?
Bon, d'abord, je vous ai dit, j'ai occupé le poste de délégué ministériel du commissariat à la promotion de la femme. J'ai été la première femme chargée de mission deux fois au cabinet. J'étais première haut fonctionnaire de défense auprès du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. J'ai réalisé une étude en 2010 où j'ai été nommée générale. J'ai réalisé une étude pour le département de la défense avec l'appui du DECAF, une étude sur l'évaluation de la présence des femmes au sein des forces armées. C'était important. On avait des outils pour chaque
beaucoup de groupes cibles. Mm-hmm. Les civils, les écoles de formation militaire, les femmes militaires elles-mêmes, les sous-officiers, les soldats, les officiers. C'est-à-dire qu'on a pris beaucoup de groupes cibles. Il fallait faire l'étude, que ça ressorte. Qu'est-ce que la population pense? Le ministre Mohamed Salia Sokona, en son temps, m'a appelé. Mm-hmm. Il a dit... j'étais commandant, je ne me rappelle pas. Il a dit, je veux qu'il y ait les filles au prétané militaire. Mm-hmm. Bien sûr, il a débuté avec l'accord du commissariat à la promotion de la femme. Le ministre a dit, voilà, il faut voir comment il faut faire, comment il faut les accueillir, quels sont les critères. Voilà. Donc c'est moi qui ai mis en place le recrutement des filles au prétané. Mm-hmm. Et j'ai aidé la ministre de la Femme. En ce moment, le ministère de la promotion de la Femme était créé. La première, c'était Mme Afoussadou Thiro. Mm-hmm. Bon, c'est avec elle, on a mis ce qu'il fallait mm-hmm. pour que les filles entrent à la gendarmerie. Mm-hmm. Donc, je peux dire, dans le cadre de la promotion de la femme, mm-hmm. peut-être les filles-là ne savent même pas qui a fait quoi.
Comment est-ce que c'est possible et aujourd'hui?
J'ai eu l'honneur mm-hmm. De faire l'étude pour la Commission de l'Union africaine mm-hmm. sur la prise en compte du genre dans les opérations de maintien de la paix.
Absolument.
Pour les pays de tous les pays de l'Union africaine. Mm-hmm. Et j'ai eu à faire beaucoup de projets d'études mm-hmm. pour les pays, la RDC, le Burundi. J'ai fait, par exemple, l'étude sur la prise en compte du genre au sein des forces armées du Burundi. Mm-hmm. Bon, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Oui. Non, par rapport aux enfants, j'ai fait une étude mm-hmm. Qui a été commanditée par la CDAO et puis le Centre Pesson, ainsi qu'une étude sur le genre. Mm-hmm. Et les deux pays où je devais faire les études, mm-hmm. c'était le Libéria et la Sierra Leone. En son temps, c'était des pays post-conflit. Mm-hmm. Bon, il y a beaucoup de choses...
Et vous parlez de l'histoire très touchante de ce jeune petit garçon-là qui était venu s'asseoir sur vos pieds, qui était amputé.
Ouais.
J'invite les auditeurs à aller découvrir le reste de l'histoire dans les livres.
D'accord. Aïcha.
Alors, mon général Le Maire, pour la fin, votre époux, M. Sinali Koulibaly, parlons à présent de lui. Quel a été son apport dans votre carrière, la nature de son soutien?
Bon, le premier commentaire que je peux faire sur ça, mm-hmm. c'est qu'il a été compréhensif. Et ça, c'était très important pour moi. Vous savez, quand on veut faire quelque chose, je ne dirais pas que les autres n'ont rien fait. Mais la compréhension du mari est très importante. Mon mari était un diplomate de carrière. Il s'est trouvé que des fois, je partais faire des études. Par exemple, j'ai parlé du Libéria. Je pars au Libéria, je pars... combien de fois je partais à Addis Abeba, je partais dans tel pays, il est resté seul.
Vous étiez assez absente quand même.
Bah oui, mm-hmm. il est resté seul avec les enfants. Et Dieu merci, mes enfants n'ont pas dérapé. Donc ça veut dire qu'il a su tenir son poste de diplomate avec l'éducation des enfants.
Mais est-ce que par ailleurs aussi, cela n'a pas été grâce à vous aussi? Parce qu'il y a des femmes, au regard des postes de responsabilité que vous occupiez, au regard du titre que vous aviez en son temps, vous pouviez avoir la grosse tête et les choses n'allaient pas si bien se passer.
Ouais. Donc ça, je reviens à mon éducation de base.
N'est-ce pas?
Vous savez, pour moi, le genre, les gens ont compris, le genre au début, c'était la tête de l'homme, la tête de la femme comme ça. Mm-hmm. J'ai pris ça comme un concept de construction sociale. Je vous ai dit au départ que j'ai vécu dans une famille où les parents de ma maman, de mon papa étaient à la maison. Deuxièmement, chaque être humain a une place dans la société, dans un couple. Si la femme dit « je fais ça pour le bonheur de ma famille », l'homme dit « je fais ça pour le bonheur de ma famille », si l'un d'entre vous ne ment pas, cette famille doit pouvoir aller. Et j'ai toujours tenu ce genre de langage avec mon mari.
Absolument.
Il savait qui j'étais. D'aspirant à général, et puis tous les postes que j'ai occupés, il savait qui j'étais, mais ça ne lui disait rien. Pour lui, c'est aussi son éducation. Pour lui, il faut qu'on soit là pour que ça tienne. Et puis dans ma tête, Dieu a fait que j'ai eu 4 garçons.
Vous avez fait combien d'années de mariage?
Waouh, je me suis mariée en 79.
Waouh, faites le calcul.
Alors comment on peut les saluer en termes militaires à travers cette émission?
Mes admirations.
Mes admirations.
Merci beaucoup, Général de Brigade Kani Diabaté, pour toutes ces précisions. Mais vous restez avec nous, car l'émission n'est pas encore finie, Aïcha.
Et oui, Lala, maintenant, prenons à présent le chemin des stades.
Il est là, toujours fidèle au poste, le coach sportif maison, Khalifa Goïta. Khalifa, bonsoir.
Bonsoir Lala, bonsoir chers auditeurs.
Alors, qu'est-ce qui fait l'actualité sur le plan sportif cette semaine?
Afro-basket des moins de 18 ans, le Mali a bien entamé la compétition en hommes et dames. Football, pas de second tour à la CAN féminine pour les aigles dames. Et puis, le tirage au sort des compétitions interclub de la CAF a eu lieu ce jeudi.
Khalifa, deux buts réussis pour les sélections maliennes à l'Afro-Basket des moins de 18 ans qui se déroule en Côte d'Ivoire.
Championne d'Afrique en titre, l'équipe masculine du Mali a battu largement le Gabon aujourd'hui sur le score de 113 à 37. Les Aiglons enchaînent ainsi une deuxième victoire consécutive en autant de matchs. Le mercredi, ils s'étaient imposés face à leurs homologues marocains sur le score de 66 à 45. Les aigles dames de la catégorie ont parfaitement lancé leur campagne en s'imposant face au Bénin ce jeudi sur le score sans appel de 124 à 20. Une entrée en matière reçue pour les protégés des souris d'Akité. Les Maliennes disputeront leur deuxième rencontre ce samedi à 18h30 face au Maroc.
Au CAN féminine Maroc 2026, coup d'arrêt pour les aigles dames.
Effectivement, l'aventure s'arrête pour les aigles dames du Mali. Les Maliennes ont été tenues en échec par le Ghana un but partout ce jeudi lors de la troisième et dernière journée du groupe 2. Un résultat insuffisant pour décrocher une qualification pour les quarts de finale. Menées au score dans le temps additionnel de la première période, les aigles dames ont réagi dès la 50e minute grâce à un magnifique coup franc de Kadidiatou Diabaté. Malgré plusieurs tentatives en seconde période, elles n'ont pas réussi à inscrire le but de la victoire. Après ce match nul, le Mali quitte la compétition dès la phase de groupe, mettant ainsi un terme à son parcours dans les tournois.
Et Khalifa, les représentants maliens connaissent désormais leurs adversaires des tours préliminaires des compétitions interclubs de la Confédération africaine de football. Le tirage au sort a été effectué ce jeudi au Caire, en Égypte.
Ce tirage lance officiellement la campagne continentale 2026-2027. En Ligue des champions, le stade malien de Bamako se déplacera au Cameroun pour affronter Colombe Sportive. De son côté, le Djoliba AC effectuera également un déplacement en Tunisie où il sera opposé au club africain. En Coupe CAF, le FC Diarra sera confronté au Ghanéen de Nations FC, tandis que l'AS Héral de Bamako se rendra au Burkina Faso pour défier Vitesse FC. Les matchs allés se disputeront du 4 au 6 septembre, alors que les rencontres retour sont programmées du 11 au 13 septembre 2026. C'est tout pour aujourd'hui, Lala.
Merci beaucoup, Khalifa Goïta, pour cette page bien fournie de l'actualité sportive. Nous te souhaitons bon week-end en musique et nous nous retrouverons la semaine prochaine. Plaisir. Adieu.
Et cette fois-ci, Lala, le choix s'est porté sur Ami Wasidje et elle chante ici à Tamachak. De ce voyage musical, maintenant nous recevons Adama Amadou Aïdara pour la revue de la presse en langue nationale bamanankan.
La revue de la presse.
Madame Amadou Aïdara, bismillah kouraye.
Mse Aïcha.
Ndoa koun konnana kouna founidi. Sebe mou oulou koumana Shana Takiyo, Aleni, Adama, Jara Ben, Oulouka, Kiri Ujabi de kan kosobe. Amilame.
Nafoya fochogo minya Aïcha kouna founidi. Sebe chama koumana Ben le cerveau, Ani, Shana Takiyo, Oulouka, Kiri Tige Jabi ou de kan. Ben le cerveau ale ka kiritige o kera chambre criminelle de la cour d'appel la mie Shana Takiwe ale ta kera tribunal du pôle national de lutte contre la cybercriminalité. Kuna founi di seben le républicain ale mi seben aka utukalo kli nani o boli la. Ko Adama Diarra na lebe wile Ben le cerveau ko san duru kaso abena oleke ka san kelen o jurube doala. Shana Takiwe ale be kalo woro o kasoke. Kuna founi di seben ya iraka foko Ben le cerveau. Parke kwenye mi nini ni oye santan kasoye ko kiritigɛla olu ma tugu o kɔ sabula olu y'a ɲangi san duuru ka so ni san kelen o juru be don a la. Kunnafonidi sɛbɛn indépendant ale y'a yira k'a fɔ ko Adama Jara di bɛn le cerveau ni ale ye mouvement yɛrɛ wolo o ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye. Mɔgɔ caman kun be ka a ka kiritigɛ in jaabi makɔnɔ ni o y'a ka jɛkulu yɛrɛ mɔgɔw ye yɛrɛ wolo mɔgɔw ka fara politiki mɔgɔw ma caman kan. Nga a ka kiritigɛw yɛrɛ baara daminɛnen juye kalo tile 27 Adama bɛn le cerveau a y'a yira k'a fɔ ko kumakan minnu bilala bɔlɔlɔsiraw kan ko kelen a jɔra la ko o ye a yɛrɛ kan ye. Min ye Shana Takiw ye ale ka kiritigɛ jaabi o ma tɛmɛ miniti 10 kan. U y'a yira k'a fɔ ko san kelen kaso a b'o de kɛ nga kalo 6 o juru be don a la. Bɛn le cerveau ale be san 4 kaso kɛ. Shana Takiw kalo 6 kaso a b'o kɛ. Nin ye Esor ka sɛbɛn ye ka bɔle min kɛra nin dɔgɔkun in na. A ye hakilinajigi kɛ nin ɲangini nunu sɔrɔla cogo min na ni o ye kunnafonidi yɛrɛ kɛcogo ye ani sariya minnu ni mɔgɔ kan ka tugu a kɔ o na sira fɛ. Bɛn le cerveau ale ka ɲangini o jaabi laban dira utukalo tile 3. O kɛra sababu ye ka kiriw datugu nga o tɛna ɲiningali caman bali halisa. Human Rights Watch n'ale ye jɛkulu ye ale ye laɲini kɛ Shana Takiw ko a ka bila joona sabula jɛkulu in ka kuma na ko i k'i hakilina fɔ k'a sɔrɔ i m'a kɛ ni fanga ye ko o man ka kɛ datuguli sababu ye. O sɛbɛnna Les Echos ale ka kunnafonidi sɛbɛn kɔnɔ. Ni ne be dansigi bita la
kɔrɔbɔramuso bamanankan fɔla i ni ce kosɛbɛ i ka ni kunnafoniya jɛlen nunu na ala k'an bɛ da ɲɔgɔn ye dɔgɔkun wɛrɛ ni ala sɔnna. Aisha, nous voilà arrivés au terme de ce numéro du club de Tamani. Je rappelle que ce soir nous étions avec général de brigade Kani Diabaté, auteur du livre Une humaniste battante qui est son autobiographie. Nous lui donnons à présent la parole pour ses propos conclusifs. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour couronner tout cela en beauté, mon général?
Ok. Merci beaucoup. D'abord, je vous remercie pour l'échange et pour l'accueil dans votre studio. Je voudrais remercier le commandement militaire qui m'a donné l'opportunité de faire ce que je voulais faire quand je voulais le faire et qui m'a fait confiance. Ma famille qui m'a soutenu des moments de stress, à des moments où j'étais stressée pour le travail, à des moments où j'étais stressée pour l'attitude de certains collègues. Et puis mes promotionnaires de l'armée et toutes les personnes avec qui j'ai travaillé. Et je remercie toutes les bonnes personnes avec qui j'ai travaillé et qui m'ont apporté quelque chose. Parce que moi, j'ai donné, mais j'ai beaucoup appris. Que ce soit au Mali, sur le plan national, sous-régional, international. Je suis le produit de toutes ces bonnes personnes. Je remercie vraiment le bon Dieu.
Merci beaucoup. Et c'est sur cette note que se referment les portes du temple du club des Tamani de ce vendredi. Merci de nous avoir suivis, fidèles auditeurs. Grand merci à toute l'équipe de réalisation conduite par Sekou Gadigo. Nohum Diré était à la mise en onde. Présentation Lalla Diara Touré et Seta Diara. Merci et à très vite pour d'autres découvertes. Bon week-end à tous.